Mon premier contact avec le kitsch semble lui-même quelque peu kitsch, puisqu'il s'agissait d'un dossier élémentaire dans le journal de Tintin, paru en 1972. Bon. J'avais alors 14 ans et j'avais détaché ce dossier du journal de BD pour le conserver, intrigué par le mot et par la chose. Bon. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que, en 1972, le mot kitsch est relativement récent dans la langue française, puisqu'il y fut introduit probablement par Edgar Morin en 1962. Il écrivait à l'époque: « Si différentes que soient les origines des mépris humanistes, de droite et de gauche, la culture de masse est considérée comme camelote culturelle, toc, ou comme on dit aux États-Unis, kitsch. » Alors il est amusant de voir que ce terme supposé allemand traversa le Rhin après avoir traversé l'Atlantique dans les deux sens et qu'il est employé pour désigner une modalité de la culture et non pas des objets. Bon. Alors je donne cet exemple parce que, par-delà l'anecdote juvénile, il est significatif d'un devenir kitsch de la culture sérieuse et d'une kitschisation, je reviendrai sur tous ces mots, ces dérivés, si vous voulez, induite par les masses médias. En effet, à l'époque, se voulant toujours à la pointe de la nouveauté, le journal de Tintin abordait un concept à la fois savant et populaire. Savant, puisque la réflexion sur le kitsch fut initiée par les philosophes et les penseurs allemands, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et très bien dit par Franz et Mathilde, et populaire, puis, enfin, donc c'était, ils pensaient ça en réaction aux philistins. Quand même, il y avait une crise à l'intérieur de la culture allemande, qui est le fameux philistinisme, c'est-à-dire une classe de parvenus, si je puis dire, une bourgeoisie qui, le terme de philistin est un terme péjoratif dans la langue allemande, qui généralement est dérivé du vocabulaire médical, mais désigne, si vous voulez, des nouveaux bourgeois qui ont un vernis culturel, mais qui n'ont pas, justement, comme les aristocrates, la patine de la vieille culture, ce ne sont pas des châtelains depuis plusieurs générations. Bon. Et donc, le terme philistin est un terme hautement péjoratif, et c'est toujours, en quelque sorte, l'ennemi culturel, et c'est le terme qu'on retrouve chez Adorno, Benjamin, et y compris aussi chez Hannah Arendt, par exemple, dans « Crise de la culture ». Bon. Donc, il y avait ce côté savant, puis aussi le côté populaire, parce que justement un magazine pour enfants, représentant par excellence cette culture de masse puérile, voire infantilisante, n'oubliez pas que le journal de Tintin en 72 était jugé comme tel, hein, avant que les universitaires s'en mêlent, et donc justement ce petit dossier établissait un petit vade-mecum, en quelque sorte, sur un phénomène culturel global réduit à un effet de style, illustrant et mettant ainsi en œuvre dialectiquement l'insouciance acritique et irréflexive du kitsch lui-même. En cela, ce dossier faisait du kitsch sur du kitsch, au sens où il le présentait en restant au seul niveau de son apparence frivole, étant ainsi lui-même frivole. Bon. En parlant ainsi, je mets en place une polysémie du kitsch, puisque ce terme désigne à la fois une modalité culturelle repérée dans l'histoire européenne à partir du XIXe siècle, référant à des objets de mauvais goût, un mode de production industrielle plutôt, comme à une situation qui déborde de ce décor, comme elle semble être la condition de possibilité. Bon. Et donc, kitsch, dans une première approche, on va dire une production à finalité ostentatoire, présentant une dissociation entre une fonctionnalité de l'objet et une apparence, la fonction étant réduite à celle d'ostentation, et l'apparence étant énorme, au sens où cela excède une norme de commune mesure, dans une hyperbole de cette ostentation. Mais kitsch également une situation dans laquelle ce n'est pas un décor ou un accessoire qui est en cause, mais une manière d'être ou de penser qui se règle irréflexivement et sentimentalement sur des clichés, comme lorsqu'Adorno fustigeait, je cite, « les instincts moisis du kitsch petit bourgeois allemand » désignant par là Heidegger, s'identifiant au paysan swab, sans avoir jamais manié la bêche ni la pioche. Bon. Le cliché n'est pas repéré comme tel, et le sujet, fut-il Heidegger, justifie sa situation par des clichés flatteurs, sans conscience des conditions matérielles et sociales qui déterminent sa situation et le conduisent à se régler sur de tels clichés. C'est ainsi que le kitsch se perpétue et se répand, rendant sa circonscription difficile. Il pose ainsi une cascade de problèmes, un problème logique, quel prédicat pour quel sujet, un problème ontologique, y a-t-il une substance kitsch dont on pourrait discerner la permanence, ou est-ce la figure versatile de la variation, et un problème méthodologique, comment l'aborder. Pour l'instant, je me contenterai de ces usages, en particulier langagier. Il semble insaisissable parce que, comme tout jugement esthétique, il est produit par une sensibilité singulière qui exprime plus un ressenti évasif qu'une série de prédicats universellement reconnaissables. On s'exclame « c'est kitsch » selon trois modalités. Comme un jugement de réalité qui énoncerait un constat « c'est du kitsch », ce qui requiert d'identifier, à ce moment-là, les prédicats. Comme jugement de valeur qui énoncerait une appréciation péjorative ou laudative sur un effet par réprobation ou par étonnement. Ça fait kitsch. Bon. Ou c'est trop kitsch. Ce qui requiert une culture de référence qui s'en démarquerait. Enfin, comme jugement d'identification qui repère des caractères et des intensités, c'est vraiment kitsch. Dans une sorte d'amusement qui semble être capable de distinguer le vrai kitsch de ce qui n'en a que l'effet, ou encore ces kitschissimes qu'on trouve dans tous les magazines féminins de bon ton, forme hyperbolique qui affirmerait ainsi des degrés de kitschéité en ce que est kitsch un peu, vraiment, follement. Bon. Ces variations de langage autour du kitsch sont en fait peu éclairantes, si ce n'est que comme genre d'objet ou comme qualité individuelle, il engage vivement les affects du spectateur. Tantôt goût, style, manière, mode d'existence, genre artistique, classe d'objet, il semble être une qualification protéiforme applicable à tout et en toutes circonstances au gré de chacun. Alors, je vais commencer par l'objet kitsch, qui est peut-être le rapport le plus simple. Est-ce que c'est simplement un objet de mauvais goût ? Alors, les Anglais, vous savez, sont très riches dans le répertoire kitsch. Alors, tout à l'heure, c'était une vitrine de Londres. Là, c'est dans une galerie d'art anglaise. J'ai trouvé ce trophée, effectivement, qui ressemble un peu à Camilla Parker. J'ai vérifié sur Internet. C'est vrai qu'elle fait des grimaces de ce style. Bon, mais je crois qu'elle ne fume pas. Bon. Alors, à observer l'objet kitsch dans tous ses états, nous trouvons pourtant, dès la fin du XIXe siècle, ses attributs. Le changement de format, de matériaux, de finalité, de fonction. Ce type de bibelot d'inanité sonore doit faire office de souvenir, ce qui requiert bien évidemment un original de notoriété nationale, voire internationale, ou un objet supposé bien connu. L'objet kitsch est en ce sens un produit dérivé, il n'est pas authentique, mais est une manière de profiter de l'aura de l'original pour le déplacer. Alors ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle un massacre, dans les trophées des aristocrates, le massacre, vous savez, c'est la tête, le crâne d'un cerf, généralement, d'un dicor, si possible, que l'on va mettre dans son salon noble. Là, effectivement, c'est massacre, mais plutôt à la tronçonneuse. Alors, donc, c'est une manière de profiter de l'aura de l'original pour le déplacer grâce à un mode de production en masse sur d'autres supports, vers d'autres matériaux, sous d'autres formats. En ce sens, il est le résultat d'une variation. En musique, on distingue plusieurs modalités de variation selon qu'on modifie la mélodie, le rythme, l'harmonie, l'ordre d'écriture, la transposition, qu'on ajoute des ornements, etc. Bon. Et donc, pour l'objet kitsch, nous pourrions trouver des variations suivantes. L'intensité du kitschesque étant proportionnelle au nombre de variations accumulées. Pour saisir la relation entre le référent et le kitsch, notons qu'il n'est pas qu'une affaire de goût orné, chantourné, surchargé, hyperbolique, emphatique, redondant, superfétatoire, mais c'est avant tout une stratégie d'enseigne et qu'il répond à une batterie d'inversions sémiotiques entre un original et sa copie. Alors je vais aller assez vite parce que c'est des choses qui sont connues. Vous avez tout d'abord la reproduction. Le kitsch fait partie de la grande tradition de la copie, c'est-à-dire de cette appropriation d'un modèle par répétition, qui est faite, alors donc une reproduction à bas coût, Généralement, le kitsch altère le matériau, passant d'une matière noble à un sous-produit. Il substitue au matériau noble le marbre, le bronze, des matières viles, le stuc, la résine. Le laiton se substitue à l'or, etc. Les marbres deviennent des trompe-l'œil. Et c'est par exemple ce qu'avait fait Louis de Bavière à Ehrenchiemsee, où il a copié Versailles, mais en réalité, tout est en toc. C'est-à-dire que Versailles, c'est du marbre, lui, c'est des stucs. Parce que déjà, ça coûtait très très cher, il a ruiné son pays, son royaume, mais c'est un modèle, si vous voulez, de kitsch aristocratique par, en l'occurrence, l'emploi de matériaux vils pour un contexte noble. Bon. Donc le kitsch se félicite de produire à l'économie pour un effet solidaire. Donc, si vous voulez, ça répond à un principe de parcimonie qui est vraiment l'esthétique du parvenu. Bon. Et donc, l'imitation est un mélange de matériaux parfois hétéroclites, produit un objet de style composite. Alors, c'est fait en grosse quantité. Généralement, donc, ce sont des produits industriels. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, mais ça, je vais l'aborder après, avec en particulier tous les artistes, là, on a le cas de très intéressant, donc, de Kuntz, bon, qui est évidemment... C'est un peu le passage obligé de toute réflexion sur le kitsch. Bon. C'est Van Gogh pour les nuls. Alors, vraiment pour les nuls, parce que apparemment, des personnes qui sont capables de mettre 3000 euros dans un sac Montaigne de Vuitton, donc c'est ce qu'on appelle du placement de produit. Je remercie Vuitton d'avoir sponsorisé ma conférence. Juste bien aimé. À l'intérieur, vous marquerez en bas qu'à l'intérieur, on vous explique qui était Van Gogh comment il peignait. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour les nuls. Bon. Mais à côté, donc là, je vous dis tout de suite, vous pouvez, sur Internet, avoir la même chose pour 39 euros. Donc, c'est 100 fois moins cher. Ça fait le même effet. C'est aussi intéressant. Ce n'est pas signé Kuntz, mais vous pouvez le signer vous-même, si vous voulez, ce qui sera une œuvre originale, absolument unique. Bon. Alors, donc justement, après, le kitsch va changer les formats, alors par augmentation ou par diminution. Donc, vous avez, alors, l'exemple typique, bien sûr, là, c'est l'architecture kitsch de Las Vegas, où vous pouvez passer de l'Arc de Triomphe au Pont des Soupirs, à la pyramide de Gizeh, tout ça sur 300 mètres, enfin bon. Et puis, avec ce qu'on appelle aussi des architectures pâtisseries, c'est-à-dire que, par exemple, on va multiplier les ornements. Si vous regardez l'Arc de Triomphe de Las Vegas, qui est donc la copie conforme de l'Arc de Triomphe de Paris, sauf que c'est un peu plus grand et que ça sert de porte d'entrée d'un parking. Bon, donc c'est très kitsch. Mais sinon, si vous avez des revenus beaucoup plus modestes, pas besoin d'aller à Las Vegas, vous allez au pied de la Tour Eiffel, vous achetez une petite Tour Eiffel d'1,5 cm, ça vous coûtera 5 euros si vous faites avoir par les Sénégalais, sinon vous pouvez l'avoir à 50 centimes. Alors, ensuite, il y a un changement de support, c'est le principe du transfert, qui considère une œuvre comme un simple motif décoratif. L'exemple ici, typique avec Kuntz. Van Gogh, oui, ben, ça peut servir de paillasson, de tapis de souris, de sac à main, de sac poubelle, pourquoi pas. Alors, c'est généralement, vous savez, les cravates, une cravate Klimt. J'ai pas amené, j'ai une cravate Escher, mais elle n'est pas assez visible. Bon, mais les cravates, c'est très intéressant. Bon, et l'exemple typique du coup du bazar kitsch, c'est bien sûr les boutiques de musées. Puisque là, vous pouvez acheter le parapluie Renoir, la ceinture de sécurité Van Gogh. Enfin, vraiment, vous avez l'imagination, je veux dire, des boutiques de musées est sans limite. Bon. Vous avez une symbolique des couleurs inversées et altérées. La couleur nécessaire et pertinente devient arbitraire et fantaisiste. Aux couleurs justes, donc on va préférer les couleurs saturées, ce sont les fameux chromos, avec une prédilection pour le rose et le bleu. Qui sont bien sûr les couleurs pastel, mais c'est le rose intense, c'est le rose Barbie, bien sûr qu'il faut, ça va de soi. Bon. Alors après, il y a un accroissement de densité et d'intensité, à l'équilibre, qui je préfère la surcharge, à la finesse, le gros trait, et au raisonnement, le tweet sentimental, il suffit de voir Trump. Alors, d'où un autre statut de l'ornement, de valorisant pour le sujet orné, il devient superflu et autodéictique. L'ornement se montre comme ornement et vaut pour lui-même. D'où un répertoire des formes kitsch, prédominance du floral et de ce qu'on appelle le style nouille, des arabesques et des roucoulades, par exemple, en musique, la géométrie s'effaçant sous la flatterie sensuelle. Les matières sont veloutées, moirées et chatoyantes. Les surfaces sont polies et lustrées. On se voit dedans comme après avoir fait la lessive chez soi. Bon. D'où une dégradation de la finalité à la beauté adhérente, pour parler comme Kant, il y a un concept ou une édification, il préfère l'acte gratuit pour le divertissement insouciant. Autre prédicat encore, la fusion, le kitsch intervertit l'utile et l'agréable, l'utilitaire et le spirituel en les mélangeant. Dans ce domaine, l'inventivité humaine semble illimitée, un Parthénon en pâte à sel fait un superbe presse-papier, le déjeuner des canotiers fait un tapis de souris, etc. Un téléphone en fourrure rousse fuchsia devient terriblement sensuel. Et des verres à moutarde Astérix, ou même mieux Tintin, appartiennent aux pièces des collections pour amateurs éclairés. Bon. Donc, on a une culture en tous sens. Le kitsch se tient sur la ligne de partage entre les produits culturels, qui relèvent d'une industrie des loisirs, et les biens culturels, qui tiennent à un patrimoine national, entre marché de l'art et monde de l'art. Comme phénomène social, anthropologues, sociologues et esthéticiens l'analysent, le tiennent en considération et par là même contribuent à sa légitimité. Il y a un effet retour aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a ce kitsch de second degré, ce méta-kitsch, le kitsch-camp, j'en dirai un mot à la fin, c'est que finalement, faut jamais négliger, même si au début c'est toujours assez ténu, mais l'influence sur le long terme des universitaires, particulièrement des sociologues, qui, en étudiant un phénomène, finissent par le crédibiliser. Et du coup, il y a un effet retour sur les producteurs de ce phénomène qui lui disent, mais finalement, ils se disent, je ne suis pas si bête que ça. Quoi. Bon, vous voyez, donc, j'ai peut-être l'air crétin, mais quand je fais du kitsch, finalement, c'est super intelligent, puisqu'il y a des sociologues qui étudient ça. Bon. Alors, du coup, il y a aussi une inversion de contexte ou de topologie, selon le principe du remploi. Conserver une pièce, mais en l'extrayant de ce contexte de sens et de fonction. Par exemple, ce qui serait le remploi ici, ce serait un Chinois qui achèterait le château de Cerisy, le démonterait pierre par pierre et le remonterait dans le fin fond, je ne sais pas quoi, de la campagne de Pékin ou du Xinjiang, et puis remplacerait toutes les fenêtres par des dragons, parce que ça serait quand même plus sympa pour des Chinois. Bon. Ainsi, la Dame Blanche de Lourdes devient une statuette fluorescente la nuit. La tête du pape se retrouve en porte-crayon. Bon. L'exotisme est ramené à du bien connu, le primitif à du civilisé, ou inversement, des motifs aborigènes ornent encore une fois un paillasson. Le familier devient oratique, la statuette baromètre gagnée au tir de fête foraine trône sur la télévision. Bon. La télévision est une sorte d'hôtel, AUTEL, moderne, si vous voulez, dans les demeures de petite bourgeoisie, domaine populaire, même de moyenne bourgeoisie, c'est le lieu où justement on va exposer les beaux bibelots de l'appartement. Bon. Donc Jeff Koons a une sorte de prédilection pour ce genre de déportation de sens, en particulier le fameux Highland Terrier qui orne l'entrée du Guggenheim, puisqu'on ne sait pas si c'est une sculpture monumentale, si c'est du topiaire, ou encore il y avait son remarque colossal placé dans un appartement de Versailles, bon, mais qui était un peu difficile à cuire, etc. etc. Bon. Donc, la marque de prestige social devient un simple apparat personnel. Bon. Alors, pour des artistes kitsch, comme Koons, Damien Hirst ou Pierre et Gilles, ils jouent de cette inversion pour faire une inversion au carré, si je puis dire. Le style kitsch, emprunté à la bimbeloterie, aux images d'Épinal, est transformé en produit de luxe. On le voit donc avec Vuitton. Ainsi, Koons, reprenant le principe kitsch du transfert d'œuvres sérieuses sur un support vulgaire, ou inversement d'œuvres vulgaires sur des supports sérieux ou nobles, produit pour une marque de luxe donc des accessoires dignes d'une bagagerie de bazar, comme en musique, par exemple, les Beatles ont été joués par le London Symphonic Orchestra. Donc, si vous voulez, All You Need Is Love par le London Symphonic Orchestra, je veux dire, c'est méconnaissable, mais au moins, ça fait que les Beatles ont dû gagner 50% de notoriété en plus. Dernier caractère, l'audace absolue. Le kitsch ose tout, n'ayant aucune inhibition. Et là encore, aller à Londres, c'est extraordinaire de voir les Anglaises. Bon. Alors effectivement, comme le notait Franz, on fait cette énumération de prédicats convergents plus ou moins représentés, ils ne sont pas tous là, forcément, parce que la systématisation du kitsch semble impossible. Bon, je vais essayer de voir ça aussi après. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer et détailler mon propos. Soit un chien en ballon. Alors, vous voyez, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que ce genre de choses-là, donc, ça s'appelle l'aérigami. Vous voyez, les Japonais, alors, l'origami, c'est avec du papier. L'aérigami, c'est avec des objets gonflables. Donc, voilà, vous avez gagné votre journée. Bon. Donc, ce classique de l'aérigami a les propriétés suivantes. Alors, il est fait de matériaux pauvres, bon marché, fragiles, produit industriellement, grande quantité, c'est facile à faire, à reproduire, c'est aisément manipulable, c'est sans finition, c'est à des fins récréatives et ludiques, c'est destiné aux enfants, c'est mat, même s'il y a des petits effets luisants, mais c'est d'abord une matière mat, sans prétention, c'est d'un coût modique, consommable, périssable, jetable, c'est éphémère, de peu de valeur marchande ou symbolique. C'est un objet banal. Ce ballon de modélisation relève des jouets et permet de jouer à ce qu'on appelle la sculpture de ballon ou sur ballon, les deux termes existent, le chien étant un des premiers modèles d'apprentissage. Selon son principe d'appropriation des objets populaires et ordinaires, pour en faire des œuvres à haute valeur ajoutée, Kunz va reprendre ce modèle quelconque de sculpture en ballon pour en faire un objet rare, comme sculpture des beaux-arts, dont toutes les propriétés seront l'exact opposé de son référent, dont il est le remploi. Donc, un emprunt avec un déplacement de situation et de fonction. Matériaux coûteux, acier, chrome et titane, résistants, produits industriellement mais en toute petite quantité, donc c'est usiné mais en 5 exemplaires, hein. Il est difficile à faire et à reproduire, il ne se manipule pas et même intouchable. À Beaubourg, si vous aviez le malheur d'approcher tout de suite, vous faisiez taper sur les doigts. Bon. Il exige une finition main avec un polissage, un vernissage, un lustrage relevant de l'artisanat d'art. Il est produit à des fins marchandes, hein, 52 millions de dollars. Il est brillant et prétentieux, c'est-à-dire clinquant, massif, ostensible. Il est très cher, il est fait pour être conservé, il est durable et à haute valeur symbolique. C'est une œuvre d'art. Bon. Et donc, cette œuvre est polémique à plusieurs titres. Il y a une controverse esthétique entre ceux qui reprochent à Kunz une inspiration facile et banale, faite d'emprunts systématiques à la culture mainstream, et ceux qui défendent son côté duchampien. Sauf que Duchamp ne fabriquait pas des objets ad hoc, mais décontextualisait des objets préfabriqués. Il y a surtout un débat éthique, voire politique. Kunz est l'exemple même de l'ironie bourgeoise, satisfaite d'elle-même, qui récupère les goûts et les mœurs populaires pour en faire des marques de distinction selon les règles du marché, raréfaction et valorisation du produit. Ces artistes kitsch induisent un schisme au sein de la critique d'art, entre une critique au service du marché, qui fait une sorte de marketing esthétique, et une critique critique, pour reprendre la formule ironique de Karl Marx, qui persévère à analyser des conditions d'évaluation en fonction des conditions de production et de réception des œuvres d'art. Le kitsch est dans ce chien de Kunz, dans le clinquant, mais celui-ci, comme miroir, est la métaphore d'une bonne société qui se réfléchit elle-même dans son lustre. C'est la gloire d'une société de réussite qui se met en abîme. Il y a là un kitsch de la pensée, puisqu'on est à la fois dans l'épate la plus exaltée, oh, it's amazing, bon, et dans un oubli des conditions de possibilité et des contradictions inhérentes à la production et à la structure sociale, bon. En cela, une classe sociale affirme son triomphe par la maîtrise de tous les codes d'appréciation, des plus populaires aux plus rares, mais strictement revus à l'aune du luxe. D'où un effet retour du kitsch, l'objet populaire devenu œuvre d'exception par l'effet du design et d'une demande des élites économiques, devient à terme une référence pour la moyenne bourgeoisie. D'où la production d'un objet tiers, le même chien, qui devient un intermédiaire entre le ludique et le précieux. Donc on n'est plus dans le ballon initial, mais celui-là il est aussi gonflable, celui que Kunz ne peut pas le gonfler, ou alors gonfler du titane, je vous souhaite bonne chance. Bon. C'est une pièce monumentale, comme celui de Kunz, qui suppose un grand espace, un joli jardin, mais dans un matériau industriel. Donc c'est un entre-deux, vous voyez, entre celui de Kunz et celui de mon fils quand il avait 3 ans, et qui perd certains attributs du kitsch, par exemple le clinquant, mais en garde d'autres comme le remploi et la grosse production. Toutefois, ces accessoires variés et variables renvoient bien à l'homme qui les produit et les affectionne. Walter Benjamin observait « Ce que nous appelions l'art ne commence qu'à 2 mètres du corps. Mais voilà qu'avec le kitsch, le monde des objets se rapproche de l'homme, il se laisse toucher et dessine finalement ses figures dans l'intériorité humaine. L'art inspire le respect, cette distance constitutive de l'aura, d'un intouchable, d'un mystère, là où le kitsch se plaît dans le tangible et l'évident. Cela suppose bien un changement d'intériorité, centré non plus sur la contemplation, mais sur la consommation. Sa propagation tient non seulement à la mise en place d'une industrie du gadget et des loisirs, au XIXe siècle et au début du XXe, mais encore au règne du contresens. Par contresens, nous entendons ici l'effet d'une internationalisation des cultures par le tourisme de masse, qui fait que chacun découvre une autre culture non pour elle-même, mais seulement des clichés vendeurs. La Tahitienne danse le tamouré, les Thaïlandaises font des massages, les Canadiens sont des bûcherons et les Français portent des bérets basques. Ce contresens kitsch devient même un business model, comme l'entend Valérie Arrault, dont nous parlions tout à l'heure. Et par là même, le kitsch n'est plus seulement un cas d'espèce dans les productions, mais devient un modèle de référence par la marchandisation de toute production dans une sorte de dénaturation généralisée, pour reprendre le terme d'Adorno, sauf que l'impetus même du kitsch est de refuser tout concept de nature qui limiterait nos actes. Il fait droit au narcissisme, devenu le moteur de la consommation libérale. Au kitsch honteux du XIXe siècle, fait place une kitsch pride qui affirme sa bigarrure. Une kitschisation planétaire est ainsi en cours. Ici, j'ouvre un petit point de vocabulaire. Dans la famille des mots dérivés du kitsch, deux termes entrent peu à peu dans l'usage, kitschisation et kitschification, tantôt confondus, tantôt distingués. Dans un colloque en 2006, justement, qui s'était tenu à Limoges sur kitsch et avant-garde, les deux termes avaient été employés avec des nuances. La kitschisation désignerait un devenir kitsch selon des propriétés valorisantes du kitsch, offrir un monde d'objets flatteurs et de sentiments lénifiants. La kitschification désignerait grammaticalement l'action de faire kitsch. Maria Giulia Dondera se proposait de comprendre les procédures de kitschification et les conditions selon lesquelles se forment et se justifient certains jugements de goût à une certaine période et dans une certaine culture. Un petit peu ce que Mathilde avait relevé tout à l'heure. Quant à Hermann Parrett, il distinguait kitschifier, qui est l'acte de faire kitsch, donc de produire une œuvre médiocre, de kitschiser, comme manière de mythifier en glorifiant un grand homme de façon évidemment absurde et en cela ridicule, bien que son autorité impose malgré tout le sérieux. Ces deux processus peuvent donc être solidaires et concomitants. Un exemple de capacité de kitschisation de notre culture moderne est la récupération de monuments historiques nationaux par l'industrie des loisirs de masse. Leur force actuelle tient au fait que la distinction entre original et simili est caduque. Que peut être une fourrure originale dans une société qui condamne la fourrure animale et se contente de fourrures synthétiques plus vraies que nature? Ainsi, le château d'Ussé fut relooké par les studios Disney, aussi bien en image animée qu'en architecture de parc de loisirs. Mais la capacité de persuasion du marketing de masse est telle que le grand public international finit par croire que le château de la Belle au bois dormant est une production originale des studios Disney, alors que c'est explicitement un emprunt à ce château de la Loire. Le kitsch tient ainsi dans la crédibilisation d'un imaginaire massif sans généalogie qui, de culture seconde industriellement fabriquée, devient, grâce à l'oubli du référent premier, une culture première internationalement commune à des citoyens littéralement dépaysés dans un environnement factice, réduisant l'interculturalité aussi au sentimentalisme. À la différence, il y a des sentiments vrais qui relèvent de coutumes culturelles différenciées. Bon. À ce point de non-retour, les industries de l'information deviennent des industries de l'infotainment, qui ne retiennent des actualités que ce qui en est lénifiant, produit du conte de fées moderne, les principautés d'opérette comme Monaco, les vedettes de l'écran, que devient Loana, bon, qui occultent le tragique de l'existence ou qui font de ce tragique un spectacle de désolation à haute valeur marchande. L'exemple le plus frappant en est la télé-réalité qui dit bien ce qu'elle fait. La réalité première est surchargée d'une mise en scène télévisuelle fabriquée à partir de clichés rentables, ces clichés finissant par tenir lieu de réalité. Ce monde à l'envers, hein, prend ses rêves pour la réalité. Un exemple de déréalisation hyper-réalisante, si je puis dire, est le cas de la princesse Diana, dont la vie de princesse fut un cauchemar personnel, finissant dans le chaos, mais dont le mythe kitschisé, si je reprends donc le vocabulaire d'Hermann Parrett, est celui d'une Cendrillon injustement frappée par les parcs. C'est ainsi que Banksy, dans une parodie caustique de la parodie lénifiante, met en scène la mort de Lady Di, alors pardonnez cet excellent jeu de mots, mais Lady Died, bon, en Cendrillon de Disney, dont le corps pantelant est harcelé sans pudeur par une horde de paparazzi. Ce qui était d'ailleurs la réalité, hein, sous le pont du tunnel de l'Alma. Bon, sous le pont de l'Alma, le tunnel de l'Alma, pardon. Banksy tourne également en dérision ce château mirifique, donc le fameux château d'Ussé devenu château de Disneyland, en ruine, qui ne peuvent plus cacher la misère du monde. Disneyland relève du kitsch, d'une industrie du réenchantement qui substitue au mythe religieux une idéologie du divertissement généralisé. Dismoland, hein, donc la terre lugubre, tente inversement de montrer l'envers sombre de cette industrie depuis une critique altermondialiste du capitalisme moderne. Toutefois, la force de frappe marchande de cette industrie est telle que même une tentative de désenchantement comme celle de Banksy n'est pas prise au sérieux et tombe elle-même dans la distraction plus que dans la prise de conscience ou l'action réformatrice. Je suis allé à Dismoland et moi-même j'en faisais partie, si je puis dire, mais c'était bourré de bobos. C'était vraiment c'était le dernier endroit chic où il fallait être. Et donc Banksy a pris conscience du fait que finalement lui-même était pris au piège du kitsch qu'induisait finalement une sorte de second degré de son propre parc d'attractions qui se voulait grave. Bon. C'est pourquoi il a démonté certaines baraques de ce parc dystopique pour en faire des abris pour les migrants à Calais. Disneyland est un parc d'attractions kitsch qui nous montre la vie en rose et bleu pastel selon une culture du divertissement généralisé. Dismoland est une œuvre critique relevant de la contre-culture actuelle. Et donc Dismalhead, ça s'est appelé Dismalhead, l'aide sombre, hein, triste, lugubre, qui était le passage à l'acte de cette contre-culture et la vérité dialectique de cet enchantement kitsch. Bon. Donc du coup, on arrive à la suite qui est la psychologie du kitsch, la fabrique des grands sentiments. La kitschification, qu'elle soit volontaire et involontaire pardon, et passive, ou volontaire et active, est un concept relativement récent. Bon. L'usage scientifique de ce néologisme a été affirmé par Daniel Harris, ce n'est pas forcément lui qui l'a inventé, puisque Hermann Parrett l'utilisait avant, mais en tout cas il était popularisé par Daniel Harris, qu'il emploie pour signifier la transformation d'événements tragiques collectifs, comme le sida, les attentats du 11 septembre 2001, en objets culturels spécifiques, par la production d'images et de discours sciemment compassionnels. Bon. Et donc, par exemple, Daniel Harris avait justement étudié, alors ça intéressera peut-être notre jeune camarade qui travaille sur les médias, comment, l'exemple ici est très clair, hein, on reprend donc les pompiers du 11 septembre, et qui dresse le drapeau américain, et vous voyez, qui reprend cette photographie très célèbre hein, des Marines américains à Okinawa dressant le drapeau américain. Bon, donc là, on s'inscrit, si vous voulez, dans une reprise de clichés, là, une conscience patriotique. Bon. Et donc, ces derniers, les médias en l'occurrence, opèrent une mise en récit, une esthétisation de tels événements, afin de les rendre exportables partageable à une échelle globale, selon une marchandisation industrielle des grands sentiments, liée à ce qu'on appelle à ce moment-là le charity business, mélange d'aide à la recherche scientifique et de promotion du showbiz. Bon. La kitschification est ainsi un effet du marketing compassionnel, avec une recherche d'effets spectaculaires, le pathos hyperbolique étant alors le moyen de convertir la gravité et le sérieux de l'existence en spectacle de désolation, dans lequel la pitié émeut aux larmes, mais sans induire de changement dans un ordre du monde maintenu dans son état homéostatique. Alors, un exemple, ça a été cette fameuse image de Nick Hutt, hein, Kim Fuck brûlé. Je vous rappelle donc l'événement. Ce sont les Américains qui bombardent dans le Vietnam du Sud un village qui leur est favorable. Hein. Ils bombardent leurs propres alliés. Bon. Des enfants sont brûlés au napalm, en particulier la petite gamine. Ils sortent dans la rue. Cette photographie a été très célèbre. Et on a l'impression, comme ça, quand on regarde, qu'on a l'impression que, vous voyez, Alors, voilà où va se trouver le kitsch. Ce que nous lisons, ce que nous interprétons, c'est des gamins esselés, seuls au monde, protégés par des Marines derrière eux, pendant que ça brûle, sauvés de l'horreur. En réalité, ce sont des photographes qui tranquillement rembobinent leurs appareils, se fichent complètement des gamins, et qui tout simplement, ils avancent où ? Vous voyez, les photographes, on le voit dans la photo du bas, ils retournent vers le pool de photographes qui est en bas, et là, il y a cette image en bas qui est absolument terrible, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, on voit une femme qui porte son enfant mort dans ses bras, et personne ne vient la secourir, en revanche, vous avez 50 types en train de faire la photo du siècle. Bon. Et en haut, les mêmes gamins que vous aviez précédemment, vous voyez, ils ne sont pas plus secourus, mais tout simplement, on les met de côté, hein, la grande sœur et le petit frère, pour faire vraiment la belle photo bien compassionnelle. Bon. Alors ici, on est dans un kitsch, ce qu'on appelle le kitsch compassionnel. Hein, c'est-à-dire qu'on kitschise justement l'actualité pour en faire une dramaturgie. Bon. Qui va en quelque sorte induire une bonne ou une mauvaise conscience, mais qui, en tout cas, dans les faits, ne change rien. Alors c'est un petit peu ce que vous aviez aussi dans This Moland de Banksy, où vous aviez des bateaux de migrants qui étaient, vous savez, des jeux de modélisme, des petits bateaux qu'on pouvait télécommander, mais ce qui était très, très ironiquement drôle dans ce manège de Banksy, c'est que vous preniez la télécommande et elle ne marchait pas. Et donc, les bateaux de migrants erraient sur le bassin, ce qui était absolument, une métaphore du tragique de la situation des personnages, quoi, des personnes, pardon. Donc, le kitsch se caractérise ainsi par son caractère excédentaire. Son effet déborde de son support matériel et se propage à l'ensemble de ce contexte. Bon. C'est pourquoi Adorno écrivait, citation qui a été déjà mentionnée, « Le kitsch n'est pas, comme le voudrait la foi en la culture, un simple déchet de l'art obtenu par une accommodation déloyale, mais il guette les occasions d'émerger de l'art qui réapparaissent constamment. » Tandis que le kitsch échappe comme un lutin à toute définition, même historique, la fiction et en même temps la neutralisation des sentiments non existants, continue l'une de ses caractéristiques les plus tenaces. En parlant ainsi, il relève un paradoxe du kitsch, être partout et nulle part, et par là même échapper à toute définition. S'il fallait en rester à un tel relativisme radical, l'affaire serait réglée. Chacun serait en droit de déclarer kitsch ce qui lui semble chromo, sirupeux, etc., et le kitsch ne serait qu'une affaire de goût, et comme tous les goûts sont dans la nature, y compris le mauvais goût, il se réduirait donc à cette perception subjective d'un décalage d'appréciation entre deux personnes. Bon. Le kitsch serait l'exemple même d'un non-partage du sensible, le monde sensible étant alors le domaine de friction entre jugements de valeurs opposées, sans commune mesure, et réciproquement dépréciatifs, comme symétriquement et identiquement relatifs. Mais Adorno ne souligne pas ce caractère indéfinissable du kitsch par irrationalisme ni par sophistique. Car si le kitsch est indéfinissable, c'est que par-delà une crise des valeurs qui ferait que la vulgarité vaudrait tout autant que la finesse, le kitsch produit une crise du sens, Comment définir, donc donner sens, à ce qui en tout et pour tout se satisfait de la contrefaçon, du faux chic, du faux, hein, du fake, comme on pourrait dire. Hein. Bon. Comment donner sens à cette vie au rabais quand discerner justement le vrai du faux et devient difficile et même plus inutile puisque le kitsch abîme notre jugement dans l'étourdissement de la frivolité satisfaite d'elle-même. Le kitsch est indéfinissable, non pas parce qu'il échappe au langage, mais parce que fait de simili et valorisant le simili, il ruine toute ontologie de l'authentique et par là même du vrai. En même temps, Adorno prenait parti. Le kitsch relève du vulgaire, constitué par un sentimentalisme fictif. En cela, il inscrit le kitsch moins dans une problématique de l'objet que dans une problématique de la condition humaine, rejoignant ici Milan Kundera ou Ruth Kluger. Et kitsch une pensée lignifiante qui veut abolir tout jugement critique, tout dualisme, toute contradiction, toute négation, par la mise en place d'une atmosphère stupéfiante dans laquelle tout serait heureux, aimable et aimant, à l'image donc des tons pastels d'un beau coucher de soleil. Le kitsch fait donc du sentimentalisme bon marché, cultivant les bons sentiments des enfants de cœur, déniant l'existence du mal, par la même d'un mal radical, comme il a été dit tout à l'heure, au sentiment existant, ce qu'il relève d'une réalité psychique complexe, le kitsch substitue un sentiment commercialisable ou même du sentiment préfabriqué et prêt à la vente. C'est ainsi que Ruth Kluger voyait dans La liste de Schindler de Spielberg un film kitsch, au sens où au lieu de restituer l'irruption du mal radical dans l'industrie de la mort, comme put le faire Alain René avec Nuit et brouillard, le cinéaste hollywoodien joue sur une compassion stéréotypée. Cela se voit en particulier dans la fameuse scène de la douche, qui montre les images prudes de femmes nues et suscite un soulagement quand l'eau coule, alors que la réalité était hors de toute esthétisation possible. Et quand on voit les rares témoignages des survivants, il est clair que ce que montre Spielberg, je veux dire, est décent, alors que immédiatement les gens étaient, étaient soumis à une indécence énorme. Bon, et cette indécence, justement, elle est inacceptable. Et refuser de voir cet inacceptable, pour reprendre Kundera, c'est cela, le kitsch. Et bon. Donc ce n'est pas kitsch parce que ce serait chromo, etc., mais c'est kitsch par le compassionnel et par le fait de ne pas aller jusqu'à montrer l'inacceptable. Bon. Qui plus est, Adorno identifiait le kitsch à un domaine, celui de l'art, comme son excès. Mais cette prise de position ne semble plus tenable actuellement parce qu'elle est réductrice. En rester à l'objet ne suffit pas, justement, dans la mesure où le kitsch englobe une manière de vivre, une vision du monde. Bon. La fonction en cri, justement, si on compare les escarpins de Louboutin, eux, ils répondent à une fonction. Ils ont, même s'ils sont de taille très très haute, ils ont un chaussant, c'est un peu ce qui fait le prix de ces chaussures, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un confort, malgré, je dirais, le caractère complètement anti-anatomique de ce type de chaussures. Bon. À côté, vous avez donc deux pièces de Marc Zetlaoui qui sont en bronze, où là, ça relève, si vous voulez, de l'objet surréaliste hein, qui dérive. Et en revanche, en dessous, vous avez donc la chaussure kitsch, qui donc, alors peut-être portée en tant que chaussure, sauf que son chaussant est très mauvais. Ma femme et ma fille l'ont essayé, bon. Donc je crois à leur témoignage de femmes expertes. Nous avons bien sûr tous les stéréotypes de kitsch, le petit neuneu en viscose, surtout pas en soie, le doré qui s'écaille sous l'ongle immédiatement, et puis bien sûr l'inévitable flamant rose qui est le signe que nous sommes bien dans un univers kitsch à souhait. Bon. Alors, si on prend justement tout cela, on remarque que la finalité du kitsch, c'est finalement de prétendre que le monde est heureux. Hein, il relève à un mode d'existence et même, je dirais, d'un choix de civilisation. Il renvoie à une condition humaine qui a opté pour une prétendue civilisation du bonheur, option fondée sur l'occultation des intérêts contradictoires qui animent la diversité humaine. Ce n'est pas le cliché qui est kitsch en soi, mais la conscience d'une communion universelle qu'il fait accroire. Et là, bien évidemment, c'est Kundera qui s'impose. Je vais vous lire un petit passage de l'insoutenable légèreté de l'être. Le kitsch fait naître coup sur coup deux larmes d'émotion. La première larme dit « comme c'est beau des gosses courant sur une pelouse ». La deuxième larme dit « comme c'est beau d'être ému avec toute l'humanité à la vue de gosses courant sur une pelouse ». Seule cette deuxième larme fait que le kitsch est le kitsch. Autrement dit, ce qui va être kitsch, c'est le sentimentalisme qui postule que nos affects sont un vecteur de communication universelle quand ils relèvent au mieux d'une interculturalité. D'où, si vous voulez, un conflit d'interprétation. Alors là, par exemple, Coca-Cola, c'est extraordinaire, hein, parce que ouvrez une bouteille de Coca et puis ouvrez le bonheur, enfin, ouvrez-vous au bonheur, si je puis dire, bon, quand on sait que le Coca-Cola est réellement une des boissons les plus nocives, puisque je crois qu'un verre de coca, c'est comme si vous preniez 10 morceaux de sucre, donc vous êtes immédiatement un candidat au diabète, c'est d'ailleurs ce qui se passe, vu que ce type d'alimentation produit des problèmes de santé majeurs. Bon. Donc, si vous voulez, là on est dans l'exemple même, alors en plus, cette image est extraordinaire, hein, le soleil qui se lève au bout, la coccinelle, et puis alors, la main de la personne à côté, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, donc là, c'est très tendance, hein, donc ça peut à la fois être hétéro ou homo, donc c'est une publicité parfaite, vous voyez, tout le monde est satisfait, donc il n'y a pas de souci. Bon. Alors justement, ça pose un conflit d'interprétation. Cette prétendue communion universelle comme schéma de civilisation conduit Kundera à voir dans le kitsch l'apparat d'une puissance totalitaire et même son mode de fonctionnement. Comme univers fraternel du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », le régime totalitaire emprunte au monothéisme une vision totalisatrice et exclusive, s'imposant à tous par la persuasion et par la force, niant toute expression de doute et de dissidence, et une esthétique paradisiaque, niant tout élément de merde, je cite bien sûr. L'esthétique pastel, je n'aurais jamais osé, l'esthétique pastel du kitsch se conçoit à la lumière d'une métaphysique exclusivement moniste, d'où le mal radical et la merde seraient exclus. N'y a-t-il pas à ce moment-là une contradiction dans notre étude du kitsch entre une version individualiste, capitaliste, néolibérale, libéralo-libertaire et une interprétation totalitaire ? Trump versus Kim Jong-un. Bon. Deux modalités du kitsch contemporain. Bon, surtout la table de Trump, et puis alors sa maison, elle est extraordinaire. Hein, je veux dire, là, c'est collector à ce niveau-là. Hein, bon. Donc, et la choucroute qu'il a sur la tête aussi. Alors, est-il contradictoire de voir dans le kitsch tantôt une esthétique du consumérisme comme triomphe donc de l'industrie libéralo-libertaire, et tantôt la mise au pas d'un ascétisme comme triomphe d'une volonté totalisante ? En fait, ce sont les deux faces d'un monisme forcé et d'un impérialisme. Soit au nom d'une expansion économique qui doit supprimer tout élément de concurrence en surjouant ses effets bénéfiques et en dévaluant toute propension au doute, ce surpoids économique vante les mérites du sucré, de l'onctueux, du kitsch comme exhausteur de goût à toutes les sauces possibles et imaginables. Soit au nom d'une expansion politique qui doit éradiquer tout foyer de dissidence par une esthétisation de l'unité promise, le kitsch ayant la fonction performative d'actualiser ici et maintenant les lendemains qui chantent. Dans les deux cas, le kitsch opère bien sa fonction de réenchantement du monde en infantilisant la population de masse avec un égalitarisme ou de consommateurs ou des camarades de la Révolution qui répond à une flatterie généralisée. Ce monisme est bien une vision du monde, la projection d'un modèle partiel au plan de la totalité mondiale. La mondialisation a deux incidences sur l'esthétique selon son double sens. Au plan sensoriel, elle induit un goût international. Au plan intellectuel, elle induit un paradoxe entre une relativisation des normes culturelles locales et une standardisation globale selon un impérialisme. Dans le brassage de populations hétérogènes, qu'il s'agit de satisfaire malgré leur hétérogénéité, l'instance d'accueil d'un lieu particulier va tendre à un optimum le goût dit international. Bon. Par exemple, tout à l'heure, je parlais avec un des techniciens d'ici, bon, et je disais, mais comment est-ce que les étrangers acceptent ce lieu qui est quand même, justement, il n'est pas kitsch, il est totalement français. Il dit, les Américains ont beaucoup de mal, parce que c'est pas un 4 étoiles. Ils se demandent où sont les toilettes, on leur dit sur le palier. Donc tout de suite, là il y a quelque chose qui disjoncte. Vous voyez, bon. Donc là, et donc le standard international, par exemple, va dire, on va produire des normes, mais ce sont des normes qui, en réalité, cassent d'autres modes de comportement qui, eux aussi, sont des normes, des coutumes tout à fait acceptables. Je veux dire, on peut vivre d'une autre manière que celle des standards internationaux. Bon. Donc, le kitsch va altérer l'éducation du goût puisqu'il va lisser toute singularité. Mais il a un mérite, offrir malgré tout, à tout un chacun, une approche de cette singularité. De fait, cette internationalisation liée au tourisme de masse accentue les clichés sur tel ou tel pays. Pour faire typique face à des millions de touristes peu curieux d'une culture locale, pressés par les circuits des tour opérateurs, l'industrie du tourisme part au plus pressé et donne ainsi aux touristes l'image qu'il est venu chercher. Le cliché fabriqué répond ainsi au cliché préjugé, de sorte que le cliché s'auto-entretient. Paradoxalement, le typique est une perte de la typicité par l'artefact kitsch. Ainsi, une céramique typique se retrouve indifféremment dans tel ou tel village typique du monde, devenu centre commercial composé, non pas par un mall moderne, mais par des ruelles reconverties en commerce de masse avec des échoppes alimentées par des industries du faux artisanat, généralement d'origine asiatique. Bon. Par exemple, une de mes grandes déceptions dans ma vie, c'est lorsque le bol breton qui était vendu à Pornic, ville où j'allais passer mon enfance, j'ai découvert que ces bols bretons étaient made in Taïwan. Donc là, vous voyez, c'est toute une défection, un effondrement complet, j'ai eu du mal à m'en remettre. Bon. Donc, les industries culturelles sont elles-mêmes devenues des auxiliaires de l'industrie du tourisme. Ou plus exactement, comme la visite culturelle est constitutive du tourisme, le développement du tourisme de masse lié aux mass médias, aux transports internationaux à bon marché, à la société de consommation et des loisirs, ce développement donc a induit une industrialisation de la culture. L'expérience esthétique n'est plus dès lors ce recueillement contemplatif, individuel, voire solitaire, une piété envers une ruine qui témoigne d'une civilisation florissante, un dialogue avec les morts, une flânerie à temps perdu qui va musarder au gré des rencontres pour apprécier l'âme vivante et les œuvres vives d'une nation. Non, ça devient une circumambulation collective, amusée, ennuyée, soumise à des séquences imposées, des cadences préconstituées, des commentaires stéréotypés. Le tourisme fait partie d'un flux quasi ininterrompu qui commence et finit à l'aéroport en passant par des hangars d'accueil séquencés par les tours opérateurs, distribuant les masses dans des files d'autocars, eux-mêmes affectés à des réseaux hôteliers, avant d'être reversés sur des lieux d'excursion, aboutissant donc à des échoppes bondées. Et ensuite, si vous voulez, on va vous trimballer en chameau, à dos d'âne, etc. Donc, vous arrivez en Grèce, paf, on vous met à dos d'âne, on vous prend en photo, comme ça vous pouvez rentrer chez vous, puis vous montrer à vos copains que vous avez fait de l'âne en Grèce. Bon, et dans ce cas-là, on ne sait pas qui est l'âne des deux. Alors, des petits villages qui sont cernés par des parkings pour autocars, etc. Des danses, des fêtes déconnectées de tout calendrier sacré ou rural, organisées en flux tendu pour que tout le monde, à toute heure, puisse jouir d'un simulacre d'authenticité. Bon. L'authenticité elle-même fait problème, si tant est qu'on puisse encore en trouver un témoin, car elle fait office d'expérience esthétique haut de gamme, vraie, celle du tourisme différentiel, ou ce qu'on appelle le tourisme affinitaire, qui dans le fond est un tourisme de niche, préfabriqué par les tours opérateurs. Bon. Si vous voulez, quand vous regardez, par exemple, comment organisent les tours opérateurs, alors vous allez avoir Fram, des choses comme ça, où là, ça va être le troupeau, et puis vous dites, non, moi je préfère plutôt Voyageurs du Monde, vous voyez, des choses... plus, mais ça appartient au même groupe, sauf que justement, on vous fait un marketing de la différenciation dans ce cas-là. Donc, on vous vend, si vous voulez, on vous vend de l'authenticité. Alors après, effectivement, sur place, on va retrouver cette authenticité, c'est-à-dire généralement le fait de ne pas avoir de car qui vient vous chercher, et du coup, les touristes occidentaux, généralement, à ce moment-là, sont complètement perdus. Bon. Donc cette mondialisation, elle a un effet épistémologique, ce qu'on pourrait appeler par une sorte d'oxymore, la dénormalisation, standardisation. Une canonique suppose une discussion rationnelle, qu'elle soit dogmatique, sceptique ou critique. Dans une sorte de paradoxe de l'internationalisation au niveau mondial, d'un côté, donc cette internationalisation relativise tout canon, de quelque pays que ce soit, et d'un autre côté, simultanément, elle produit une péréquation des goûts et des couleurs dans une standardisation. Par exemple, cela peut se voir avec le vin. Je crois qu'on va parler des gâteaux, des tartes à la crème. Mais par exemple, si vous prenez le Beaujolais est extraordinaire parce que le Beaujolais est un vin kitsch. C'est-à-dire que le Beaujolais se vend partout dans le monde et selon les pays, le Beaujolais ne va pas avoir le même goût. Tout simplement parce que le Beaujolais est un vin aromatisé. Parce que un vin qu'on vous vend au bout de 3 mois, c'est ce qui s'appelle une piquette. Donc personne ne va acheter de la piquette, surtout que maintenant le Beaujolais, jadis ça se vendait 3-4 euros, maintenant ça se vend 9-12 euros, donc on a multiplié le prix par 3 ou 4, mais on va l'aromatiser à la banane, donc on va vous dire cette année le Beaujolais a un goût de mûr, tout simplement parce qu'on a mis des arômes de mûr. Bon. Donc, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est fabriqué, et quand vous allez par exemple aujourd'hui dans certains bars à vin tendance, on ne vous demande pas que voulez-vous comme région, est-ce que vous voulez un Bourgogne, un Bordeaux, etc. Mais même pas quel cépage, est-ce que vous voulez un Chardonnay, un Mourvèdre, une Syrah, bon. Mais on va vous dire, vous voulez quoi? Vous voulez du floral, du fruité? Alors, vous savez pas trop, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous avez une carte des terroirs, et là, le sommelier est complètement perdu. Parce que lui, il a 4 catégories de goûts qui correspondent à des standards internationaux prédéfinis. Et si vous commencez à lui parler en termes, par exemple, d'œnologie à la française, il ne peut pas vous répondre. Parce que les standards internationaux ne sont pas du tout ceux de l'œnologie à la française. Bon, par exemple, les Américains, eux, pensent par cépage, alors que dans les vins français, vous avez beaucoup d'assemblages. Bon, donc ça fait des vins très très différents. Donc, on va vous dire, est-ce que vous voulez un vin épicé? Alors un vin épicé, qu'est-ce que c'est qu'un spicy wine? Je veux dire, c'est un vin dans lequel on met un peu de chili, enfin c'est pas trop, vous voyez. Donc, est-ce que c'est plutôt un vin du sud, où il y a beaucoup de soleil dans le vin? On sait pas, vous voyez. Mais ce sont comme ça des catégories préfabriquées qui produisent justement ces produits industriels avec des standardisations. Vous voyez, parfois très très difficile de s'en défaire, parce que elles sont produites par une industrie de la consommation, et dans ce cas-là, derrière, vous avez des normes, comment on appelle ça, des limonadiers, hein, en particulier par exemple France Boisson, qui est un très très grand lobby en France, qui va vous produire ce type de boisson préfabriquée. Bon. Alors, dans le champ donc de la sensorialité, une standardisation esthétique due à l'internationalisation s'affirme, et ainsi, bon, donc, on va travailler sur des saveurs consensuelles, mais qui finalement ne correspondent plus tellement à des expériences personnelles. Bon. Et donc, il y a cette sensorialité kitsch qui est un confort international. Donc là, on retrouve un des caractères repérés par Molls, qui était la notion de confort, mais un confort, par exemple, gustatif. Et dans les couloirs de métro, les halls de gare ou d'aéroport, les pâtisseries industrielles répandent des odeurs de pâtisseries tièdes, propres à séduire et à capter l'odorat du passant pour conditionner un acte d'achat. Et par exemple, quand vous êtes dans le métro, ça sent bon le croissant, vous achetez le croissant et le goût ne correspond absolument pas à l'odeur, tout simplement parce que c'est un croissant qui n'a aucun goût. Bon, en revanche, l'odeur a été très savamment calculée pour que vous achetiez le croissant, c'est un déclencheur d'achat. Bon, c'est pareil, si vous voulez, pour les fameuses musiques de supermarché, qui sont faites pour déclencher l'achat, qui ne sont pas du tout faites pour être écoutées. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un d'ailleurs s'arrête de pousser le caddie pour écouter la musique, sauf si c'est du Richard Clayderman. Bon. Alors, se développe ainsi, je ne peux pas louper ça, une mayo internationale qui est à la mayonnaise, ce que le ketchup est à la sauce tomate et ce que Las Vegas est au patrimoine de l'UNESCO. Bon. L'hôtellerie internationale retient des formats, des matériaux, des couleurs optimisées, etc. etc. Bon. Et du coup, ça joue sur ce que Marcel Mauss appelait les techniques du corps. Par exemple, les Japonais ne s'assoient plus sur les talons, mais sur des chaises à l'occidentale. Et d'ailleurs, du coup, ils sont très souvent très très embêtés. Et symétriquement, quand vous êtes dans les restaurants dits japonais, jamais vous ne vous asseyez en seiza ou sur les talons ou en tailleur, parce que vous auriez des douleurs aux jambes immédiatement. Bon. Donc le problème étant que plus personne ne peut dire la loi en la matière, il y a une perte du canon ou de la norma, c'est-à-dire de la règle et de l'équerre, non pas parce que l'instrument serait défectueux, mais parce que l'unité de mesure est elle-même dissoute. La question n'est pas celle d'une relativité du jugement, comme je le disais, mais elle est plutôt celle d'un impossible point de repère. Dieu, la nature, la raison, et même l'universel possible, sont rendus caducs, parce que plus rien n'a suffisamment de force physique, morale ou intellectuelle pour obliger quiconque. Car l'autorité est dorénavant pensée en termes de reconnaissance, donc là j'aborde mon argument conclusif, et cette dernière est elle-même comprise, à tort ou à raison, depuis l'agrément, n'a d'autorité que ce qui m'agrée. Toutefois, s'il n'y a plus de point de repère, il ne faut pas en conclure tragiquement que le nihilisme triomphe, mais inversement qu'aucune hiérarchie ne prévaut, dès lors que l'égalité est la règle. Le kitsch abolit le fil à plomb qui ordonne une verticale pour en rester au niveau qui égalise les dignités humaines. La norme n'est plus transcendante, mais immanente aux relations sociales. En conclusion, je peux donc dire que le kitsch semble scintillant, car il ne peut plus être réduit à une manière vulgaire, à une barbarie, qui serait par rapport à la culture le camp d'en face, sa caricature ou sa pente. Toute une intelligentsia s'appuyait justement sur cette dichotomie entre la culture et le philistinisme, entre la bonne éducation et les industries culturelles, entre la liberté et la réification, pour reprendre le terme d'Adorno, présupposant justement une axiologie valorisant les œuvres de l'esprit contre le marché. C'est encore, par exemple, aujourd'hui, on l'a rappelé, l'argument de Valérie Haro. Or, il me semble que cette dichotomie ne tient plus, non pas parce qu'elle serait inexacte, mais parce qu'elle n'est plus défendue, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai mentionné, les brassages culturels mondiaux induisent des effets intellectuels. Ainsi, la critique opérée par les cultural studies déplace les lignes de partage. C'est moins la lutte des classes que la lutte des races, des sexes et des genres, des colonisés. Dès lors, juger qu'une œuvre, qu'une pensée, qu'une conduite, qu'une culture sont kitsch relève d'un jugement dépréciatif lui-même lourd de préjugés sur ce que devrait être le bon mode de consommation de la culture. Les romans photos, comble du kitsch, étudiés par mon collègue et ami Yann Battins, bon, sont reconnus comme une littérature ouvrière avec ses codes sui generis. Les chromos relèvent d'un patrimoine populaire. Dès lors, toute une production kitsch devient une matière première pour une production artistique qui l'assume, la reprend, l'intensifie. Jadis, adjectif dépréciatif qui sanctionnait un mauvais goût comme une claque cinglante, le kitsch est devenu un substantif ambivalent. Tantôt il dénigre Kaamelott, paillettes, pacotille, tantôt il célèbre une fantaisie débridée qui ose donc faire jurer les couleurs et les styles. D'un côté, Patrick Sébastien, avec ses vestes criardes et sa coiffure soufflée, en quoi lui et Trump sont sosies, et son esthétique popu qui fleure bon le saucisson suintant, et la chanson paillarde. D'un autre côté, Pierre et Gilles, avec leur photographie chromo, à l'esthétique saturée, alors en termes branchés, il faut dire décalés, bon, qui veut affirmer la capacité des bourgeois bohèmes à absorber tous les courants culturels et à repenser les genres antiques, le pastoral, le consacré. Pierre et Gilles, si vous regardez bien, reprennent les genre classique de la peinture. Je veux dire, ils vont reprendre la figure du berger, seulement le berger, ça va être un gay contemporain avec un petit napperon à carreaux, quoi. Bon. Donc ils vont reprendre ça, repensent les genres antiques sous l'influence d'une ironie, connivence d'un nouvel entre-soi. Dans ce millimélo planétaire, que peut donc bien être une transmission esthétique? En termes kantiens, l'universel peut-il se penser comme mondial, hein, le passage de l'universel au mondial? Et la communicabilité du jugement de goût et de l'expérience esthétique peut-elle se penser en termes de partage, comme je m'interrogeais tout à l'heure? Partager son goût en réseau, c'est-à-dire diffuser une réaction prime sautière sur un médium international, est-il une communication? Qu'y a-t-il de commun, de sens transmis en ce cas? La culture mondialisée fuit l'obstacle de la langue, obstacle à une compréhension universelle et limite de la diffusion à un seul champ phonique, anglophone, arabophone, francophone, germanophone, hispanophone, etc. Bon. D'où une émancipation du discours et l'importance accordée à l'image, voire au simple visuel, à un moyen de communication sans langage. Plus encore, comme les codes iconiques de chaque culture ou de chaque civilisation constituent des freins ou des barrages, on réduit les œuvres de l'âme à des images sans profondeur, au sens où tout visuel devrait pouvoir se dire et se traduire dans toute langue, donc dans ce que chacune a de plus plat et de plus pauvre pour pouvoir être mise en commun sans risque de confusion. Le particularisme est donc réduit à un cliché séduisant, justement parce qu'il occulte tout ce qu'il a d'unique dans la particularité. L'unique, the unique, devient aussi un cliché. On admire les stucs de l'Alhambra pour leurs détails, de leur finesse infinie, mais sans voir comment l'âme mystique s'élève et se perd dans ces ciels contemplatifs élaborés selon des schémas cosmogoniques et théologiques. Bon. La kitschification d'objets socialement marqués, comme conversion, inversions et interversions des valeurs et des signes, sont donc notre fatalité contemporaine. Elle s'inscrit dans une mondialisation libérale, brasse les cultures, etc., etc. Le concept de kitsch consiste alors moins à être un évaluateur qui discerne le chic du toc qu'un simple opérateur qui indique la transformation d'un être au monde en monde du monde. L'être au monde est ce temps de recueillement qui fait sens pour l'humain en quête de soi. Le monde du monde est ce contresens actif qui fait que toute partie du monde emprunte à une autre partie son mode d'être. Cléopâtre est une star de vidéoclip, la Sainte Famille fait du scooter, une Corée est un décor occidentalisant pour touristes à Shanghai, et ce contresens devient, au sens propre comme au sens figuré, une tarte à la crème, métaphore et concrétisation d'un univers sucré et consommable. Mais une telle kitschisation reste ce qu'elle est, une histoire que nous nous racontons pour nous persuader que la vie est belle quand elle est aussi l'insoutenable pesanteur de la vie disqualifiée. D'où l'irruption d'un kitsch critique, comme par exemple cette installation très dure de Claude Lévesque, qui est kitsch par ce Mickey en néon et immédiatement sanctionné donc par le Harbart Marfrey, emprunté bien évidemment à Auschwitz, et dans une société qui valorise le travail, tout à coup, on s'aperçoit que cette formule qui pourrait très bien être américanisée apparaît comme étant justement le conflit donc entre cette merde qu'on tente à vouloir oublier, occulter, et puis cet univers d'insouciance qu'on nous distille un petit peu partout. Bon. Et donc il y a cette œuvre de kitsch critique, ou aussi donc le kitsch camp, comme conscience dialectique interne à cette kitschisation, qui utilise les codes du kitsch pour les porter à leur paroxysme, dans un mouvement solidaire de jubilation et de défection, afin de déconstruire les récits et les tensions inhérents à notre monde actuel. Et le kitsch est alors un opérateur de liberté. Bon. Et là, c'est intéressant de voir dans le kitsch camp, par exemple, là j'ai pris Frida Kahlo, parce que véritablement, il y a toute une série de variations sur Frida Kahlo, empruntées d'ailleurs justement par toute une esthétique kitsch gay, parce que le kitsch camp, comme on l'a noté tout à l'heure, est essentiellement, provient des milieux gays américains. Bon. Non seulement pour se démarquer, donc il y a ce côté pride, affirmative action, etc. Donc on s'affirme comme tel, et du coup donc on va trouver des critères de différenciation, puisque si vous voulez, l'idée était la suivante, tant qu'à être traité de folle, autant l'être. Bon. Donc à ce moment-là, il y a une manière d'assumer, si vous voulez, le kitsch comme, ce que je disais tout à l'heure, une stratégie d'enseigne, comme emblème de ce que l'on est. Donc à la fois on s'en amuse, mais en même temps, derrière, il y a de la gravité. Donc c'est ce qui est très intéressant dans cette dernière modalité historique et qui continue encore aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question qu'on disait tout à l'heure, le kitsch camp, c'est une expression qui existe quand même, je dirais, dans les milieux de ceux qui travaillent sur le kitsch, en particulier, on disait un peu en aparté, dans les gender studies, où là, c'est un monde de référence. Bon, Suzanne Sontag, c'est pas un scoop que de le dire, bon, était lesbienne, bon, et donc c'est pas un code de reconnaissance parce que c'est sorti du milieu strictement homosexuel, mais en tout cas, ça a fait partie d'une période de tous ces mouvements de reconnaissance, hein, justement, surtout dans les années 80. Bon. Alors, en France, effectivement, ça a été plus retardé, d'abord parce que le rapport de la culture française à l'homosexualité a toujours été beaucoup plus serein. Hein. Là, vous pouvez voir des photos d'André Gide, les grands littérateurs français étaient homosexuels, je veux dire, c'est bien connu, ça n'a jamais été un problème. Oui, ça n'a jamais été un problème. Bon. Aux États-Unis, c'est différent, il y a quand même une dimension de puritanisme, même si en France, il y a le catholicisme. Bon, mais en tout cas, ça n'a pas pris les mêmes formes du tout. Et en revanche, c'est dans l'intégration, justement, de tout ce que veut dire cultural studies, gender studies, dans la recherche française contemporaine, qui a cette manière d'accepter, d'absorber le kitsch camp et de retravailler dessus. Bon. Par exemple, dans le dernier colloque qui a eu lieu à Brest sur kitsch et idéologie, il y avait toute une partie du colloque qui était consacrée au kitsch camp. Bon. Aussi bien en tant que stylistique. Et c'est là où j'émettrai une réserve par rapport à ce que dit Suzanne Sontag. En tout cas, en France, le kitsch camp est hautement politique. Il est hautement politique. C'est pas simplement une affirmation, on va dire, communautariste. C'est véritablement, justement, un travail politique sur la notion de dignité, la notion d'égalité, qui, je vous rappelle, sont quand même des notions qui constituent et le préambule et l'article 1 de la Constitution française, bon, et qui, donc, sont liées à la reconnaissance de tout citoyen. Comment. Donc, voilà par où je voulais finir. Merci. Merci.